Voilà, c'est un plaisir d'être là et devant la parole, de puiser dans ce livre qui est inépuisable. Il y en a d'autres qui peuvent rendre ce même témoignage, mais j'entends cette parole prêchée depuis de longues, longues années et je découvre toujours des nouvelles choses et c'est extraordinaire. Ou c'est moi qui ne retiens pas, hein, j'ai une mauvaise mémoire, ou bien c'est vraiment des nouvelles choses, mais c'est toujours nouveau. Nous sommes là dans une série de prédications tirées du second livre des Chroniques, second livre des Chroniques des rois d'Israël. Et donc nous avons commencé avec le chapitre 29, lorsque Ézéchias est devenu roi. En 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 1 commence par Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Verset 2, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mais ce qui nous a vraiment étonnés, c'est ce que nous avons trouvé au verset 3, c'est qu'en devenant roi, il a 25 ans. Vous savez ce que c'est que 25 ans, vous savez quels sont les rêves de quelqu'un qui a 25 ans. Surtout quand on devient roi, on a ce qu'on veut, on peut l'avoir, hein, il suffit de le demander. Et la première chose qu'il fait, la première année, au premier mois, il nous dit au verset 3, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Ils étaient fermés, ces portes étaient peut-être même emmurées. Il n'y avait plus le culte de l'Éternel, c'était l'idolâtrie de tous côtés. Et lui, la première chose, ce qu'il avait de plus important, ce qu'il avait le plus à cœur, ce qui était déjà dans son cœur avant de monter sur le trône, eh bien, c'est de rétablir l'adoration de l'Éternel. Et donc, la première chose, et nous avons vu ça dans le verset 20, chapitre 29, qu'il a fait ouvrir les portes, et ensuite ils ont vidé tout ce qu'il y avait dans le temple, qui ne correspondait pas au temple, parce que le temple avait été utilisé pour l'adoration d'autres divinités, et ils font le ménage, ils remettent de l'ordre, il faut rallumer le chandelier, il faut rallumer l'autel des parfums, il faut poser du pain sur la table, des pains de proposition, il faut rallumer l'autel pour les sacrifices, et c'est on redémarre. Le frère, là, il vient du nord, là où il y a les grandes aciéries, ou bien où le charbon, et on ne laisse pas éteindre facilement, parce que ce n'est pas évident de rallumer. Et ce n'était pas évident de rallumer parce qu'on ne pouvait pas allumer avec n'importe quoi, hein, remettre le temple en marche. Mais Ézéchias cherche à ramener le peuple à l'Éternel. Et il y a la purification du temple, purification des Lévites, purification des prêtres. Et on se prépare pour offrir des sacrifices. Tout est en place. On arrive à la fin de ce premier passage. Donc, il nous dit après le 16e jour, donc après 2 semaines, eh bien, au verset 18, il dit, ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes, tous les ustensiles et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Et nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on attend l'ordre de mettre les choses en marche. Dimanche dernier, nous avons vu à partir du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre. Et alors, ils ont procédé à ce service dans l'ordre que l'Éternel avait donné. Et la première chose, c'était le sacrifice d'expiation des péchés. Hein, ils ont commencé d'abord, on confesse le péché, on règle la question des péchés, ils ont confessé le péché, ils ont posé les mains sur les victimes, de manière symbolique de transférer le péché sur l'animal qui va être sacrifié, de même que nous voyons dans Jésus-Christ qui a pris sur lui nos péchés, hein, qui est devenu péché pour nous, parce qu'il était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est devenu notre sacrifice. Et donc d'abord, il y a eu l'expiation du péché. Ensuite, vers les versets 25, après on passe aux holocaustes. Et l'holocauste montre, c'est-à-dire, je sais que mon péché est pardonné, maintenant je peux louer le Seigneur. Et donc, au moment des holocaustes, ce sont d'autres animaux qui sont offerts à Dieu. Mais la viande, elle est mangée, elle est partagée par tous. C'est un temps de communion ensemble. Et c'est là où ils ont adoré le Seigneur. C'est à ce moment-là que les instruments de musique ont été apportés. C'est là qu'on a commencé à chanter les louanges et les psaumes de l'Éternel. Et on a surtout chanté le cantique qui correspond à ce moment, hein, au verset 28, il dit « Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique, et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste soit achevé. » Donc, dès que l'Holocauste a été posé sur l'autel, et alors il y avait ce cantique et cette musique et tout ça pendant tout le temps que l'Holocauste était consumé. Ensuite, ils sont en train de rentrer dans l'adoration. Comprenez que, bien qu'il y ait les instruments, mais avant des instruments, ils se sont d'abord prosternés. Hein. Souvent, on se dit, on va mettre les instruments en marche pour mettre de l'ambiance, pour que les gens puissent adorer le Seigneur. Non, on adore le Seigneur d'abord par se prosterner devant le Dieu de gloire. Et ensuite, le chant s'élève. Et à partir du verset 31, après commencent les offrandes d'action de grâce. Et alors après d'avoir adoré le Seigneur, l'avoir remercié pour ce qu'il a fait, pour qui il est, ce qu'il représente pour nous, et alors là commencent les actions de grâce, ce que Dieu a fait, comment il nous a gardés, comment il nous a préservés. Et tout cela rentre dans le culte, tout cela entre dans l'adoration. C'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau. Là, il le faisait pendant l'Holocauste parce que c'était les symboles, mais maintenant que Jésus-Christ est mort, eh bien c'est dans le contexte de la mort de Christ sur la croix. C'est en pensant à cette croix, et c'est pour ça que souvent, eh bien nous avons même la table du Seigneur qui nous rappelle l'offrande de Christ. Mais tout cela, dans ce contexte-là, c'est l'adoration. Et donc, pendant jusqu'à la fin du chapitre 29, eh bien, nous arrivons et verset 36, le dernier verset dit « Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. » Et donc, si elle avait pu se faire aussi rapidement, c'est parce que Dieu travaillait dans les cœurs, travaillait dans chaque cœur, comme il avait travaillé dans le cœur d'Ézéchias. Mais Ézéchias travaillait main à main avec le Seigneur. Et le Seigneur met les choses en place. Vous savez, des fois, on a de bonnes intentions, on veut faire des choses pour le Seigneur, mais si ce n'est pas son projet ou si ce n'est pas son temps, eh bien, on rencontre des difficultés. Mais quand lui, il est dedans, eh bien, les choses se font. Et en général, il n'est pas aussi pressé que nous, parce que lui, il ne cherche pas à avoir du chiffre, mais il cherche à avoir un peuple qui lui est consacré. Alors aujourd'hui, nous allons passer au chapitre 30. Donc 2 Corinthiens chapitre 30. 2 Corinthiens, 2 Chroniques. Merci. C'était pour voir s'il y avait quelqu'un écouté. Voilà, 2 Chroniques chapitre 30. Et alors les premiers versets nous donnent un résumé de tout ce qui va se passer dans le chapitre. Hein. Donc c'est un chapitre, on va essayer de voir tout le chapitre. Donc verset 1, il nous dit « Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, Et si vous connaissez un peu l'histoire de l'Ancien Testament, vous savez que Éphraïm et Manassé, les deux tribus issues de Joseph, mais c'est elles qui vont être vraiment les plus rebelles de toutes les tribus. Et de toutes les 10 qui sont représentées par le royaume du Nord, eh bien, ils commencent par les deux, qui sont donc les pires, comme on dit. Hein. Manassé et Éphraïm. Et alors, il va les inviter pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous savez, la première chose, c'est seulement ce matin que j'ai noté cela, mais vous remarquez l'expression « la maison de l'Éternel ». Vous savez, on a toujours parlé du temple de Salomon. On parle toujours du temple de Salomon. Mais j'ai regardé dans la concordance et finalement, rien que dans deux chroniques, l'expression « maison de l'Éternel » est employée 65 fois, alors que « temple » est utilisé que 7 fois. C'est-à-dire qu'il y a une préférence pour appeler ce lieu « la maison de l'Éternel » plutôt que d'appeler le temple. Et puis 22 fois, seulement dans deux chroniques, 22 fois, est-ce qu'il dit « la maison de Dieu » hein, donc la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, vous faites votre calcul, ça fait 87 fois, tandis que le temple, eh bien, que 7 fois. Donc il y a une préférence pour cette expression. Et puis j'ai même regardé plus loin, et depuis la construction de ce temple par Salomon, eh bien, il y a une préférence pour une appellation « maison de Jéhovah »,« maison de l'Éternel ». Et je me suis dit, mais peut-être que c'est une bonne chose aussi pour nous d'avoir cette habitude de ne pas faire référence au bâtiment, mais de faire référence à l'Église. Et on parle du temple. Quand on dit le temple évangélique, ben on parle du bâtiment. Hein. C'est jamais des personnes. Le temple, c'est que le bâtiment. Mais les croyants qui se réunissent dans cette Église, eh bien, le Nouveau Testament les appelle la maison de Dieu. Chacun de nous, il dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis, il dit, nous, rassemblés, nous sommes la maison de Dieu. Alors, bon, peut-être que par notre société, on a pris l'habitude d'employer certaines expressions. Mais si, vous savez, choisissons l'expression que Dieu préfère. Hein? Parce que maison de l'Éternel, maison de Dieu, maison, c'est le lieu où on demeure, hein, le lieu qui est habité. Hein. On dit, on peut dire, c'est où ta maison, mais beaucoup n'ont pas de maison. Mais on dit, mais tu habites où? Où est le lieu où tu demeures? Et Dieu dit, écoutez, venez là où je demeure. Et c'est là qu'on cherche, et c'est là qu'on fait le choix. Et c'est là où on veut se réunir avec ceux qui forment la maison de Dieu. Et c'est avec ceux-là que nous voulons adorer. Alors Ézéchias, eh bien, il a dit, on ouvre les portes de la maison de l'Éternel, et puis on va établir l'adoration, rétablir l'adoration dans la maison de l'Éternel. Et alors, et lui, il dit, c'est pas une question, il dit, oui, bon, politiquement, il y a le royaume du sud, le royaume de Juda, et puis il y a le royaume du nord, et puis ils ont même fait des guerres entre eux, et ils ont une concurrence et tout ça. Mais il dit, mais quand on parle de la maison de l'Éternel, alors là, il n'y a plus de frontières. Il dit, on les invite tous. Et même, pour employer le langage humain, même les pires, tous sont invités. Et je crois que c'est un esprit que nous devons avoir dans l'Église, c'est que la porte, elle est ouverte, c'est pas parce que c'est un lieu public que la porte est ouverte, c'est parce que le cœur de Dieu est ouvert, et ouvert à quiconque vient, peu importe dans quel état il se trouve. On veut l'accueillir. Peu importe combien de fois il est tombé, on veut l'accueillir comme Dieu accueille, parce que c'est la maison de Dieu. Et même si, bien sûr que Dieu préfère la fidélité, bien sûr que nous préférons la fidélité, tout ça. Mais le Seigneur dit, s'il vient, reçois-le. Et Ézéchias était tellement en harmonie avec la pensée de Dieu, il était tellement en accord, hein, comme des instruments qui sont accordés, il est encore, il est synchronisé à la pensée de Dieu. Et il dit, ben oui, on veut faire la Pâque. La maison de Dieu est propre. On peut inviter. Et on va inviter tous ceux qu'il invite lui. Et si vous prenez le temps de voir dans le début de deux chroniques, lorsque Salomon fait la consécration du temple, eh bien, et dans sa prière de consécration, prenez le temps de le lire, ça vaut la peine de peser les mots, mais il parle et dit, quand ce peuple t'adore, écoute-le. Si ce peuple s'éloigne et il revient, reçois-le. Il dit même un étranger, donc un non-juif, même si un étranger vient vers cette maison, reçois-le. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et c'est la pensée qui, encore plus aujourd'hui, que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, c'est de pouvoir dire, mais c'est toute la famille de Dieu. Et alors, déjà rien que dans ce premier verset du chapitre 30, Ézéchias, eh bien, il donne le ton du chapitre. Parce que il va les inviter tous, il dit, pour célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il veut que tous viennent, c'est la Pâque, c'est la grande fête. Et pour un peu vous rappeler un peu l'histoire, la première Pâque, eh bien, elle était célébrée en Égypte, ce soir où l'ange est passé pour tuer tous les premiers-nés. Et alors, tous ceux qui avaient mis du sang sur le linteau de la porte et sur les deux poteaux, eh bien, eux, le premier-né a été préservé. Et donc, c'est ce soir-là qu'ils ont quitté l'Égypte, qu'ils ont quitté l'esclavage. Ce soir-là, eh bien, ils ont trouvé la liberté et ils ont été conduits par Dieu. Et déjà, la colonne de feu était là pour les conduire. Et c'est là où ils ont traversé la mer Rouge. Dieu a pris soin d'eux. C'est la Pâque, c'était le grand jour. Et comme le disait le frère tout à l'heure, il disait, pensons au jour où le Seigneur nous a reçus. Pensons à ce jour, n'oublions pas ce jour, revivons ce jour. Et méditons sur la grâce qu'il nous a faite ce jour-là. Alors il dit, Israël, ne fête plus cette Pâque. Pourtant, c'est une grande fête. Il dit, alors, regardez comment il s'y prend. Et là, il y a une petite leçon à tirer aussi pour nous. Verset 2, il dit, le roi, ses chefs, toute l'assemblée avait tenu conseil à Jérusalem. Vous avez vu que tous ceux qui sont là, c'est le roi. Vous savez ce que c'est qu'un roi? Un roi, il décide tout seul. Il peut décider tout seul et dire, on fait comme ça. Ben, ce roi-là, qui est animé par l'Esprit de Dieu, eh bien, il appelle les chefs, et puis il appelle l'assemblée, la population, et dit, ça c'est une chose qui nous concerne tous, on va discuter ça ensemble, on prendra une décision ensemble. Vous savez, quand tout le monde entre dans la décision, et la décision est unanime dans un même sens, et c'est tout un autre esprit, vous savez. Hein, c'est pas comme, je t'ai dit de le faire, hein, fais-le. Ah oui, ouais, il va le faire, mais bon, c'est pas tout à fait le même travail. Tandis que si on a tous décidé ensemble, je me rappelle une fois, nos enfants, ils ont voulu nous faire une surprise. On partait en vacances le lendemain matin. C'était dimanche matin, lundi matin. Donc les dimanches qu'on avait à l'époque, c'était des journées complètes. C'est allé jusqu'au soir. Et ils savaient qu'il fallait qu'on mette la maison en ordre, parce que nous, on partait peut-être en vacances, mais la maison allait servir pour des réunions pendant la semaine. Et donc, il fallait que tout soit en ordre et propre. Et ils savaient que lundi matin, maman, parce que c'est maman qui gère la maison, et ben maman, elle a insisté qu'on met tout en ordre, on nettoie la maison, on fait tout le ménage, et puis ensuite on part en vacances. Et comme eux, ils voulaient partir, et ben ils se sont consultés entre eux, ils n'ont pas appelé les chefs de la maison, ils se sont consultés entre eux, et ils ont réglé le réveil, ils se sont levés à 3 heures du matin, et ils ont commencé à faire le ménage. Et nous, on était fatigués, on dormait. Et bon, moi, j'ai jamais rien entendu. Maman, elle s'est dit, il y a du bruit dans la maison. Finalement, elle les a découverts. Mais ils avaient fait tout le ménage. Elle a dit comme ça, demain matin, quand vous vous levez, bah, c'est tout fait, on peut partir. Mais vous savez, c'est tout autre chose que si on leur avait dit, écoutez, pendant la nuit, on va vous réveiller et puis il faudra faire le travail. Dit, oh non. Vous savez, ça aurait été toute une autre attitude. Mais quand c'est eux qui ont décidé, mais vous savez, mais on est des humains encore aujourd'hui. Hein. Et quand on prend des décisions, c'est bien de tous ensemble et de chercher non pas l'intérêt de l'un ou de l'autre, mais de ce que le Seigneur veut. Et là, quand on cherche la volonté du Seigneur, cela unit des gens qui pourraient être très variés. On est un peu français, n'est-ce pas? Même dans l'Église. Hein, donc, c'est bien de voir un peu ce que le Seigneur fait les choses. Alors, Ézéchias rassemble tout le monde. Et il décide, on va célébrer la Pâque. Mais il y a un problème. C'est que le premier mois, la Pâque, normalement, c'est le 14e jour du premier mois. Et là, on vient de faire le ménage, il n'y a pas le temps. Et puis c'est pas, les gens sont pas prêts. Comment? Et puis à l'époque, les gens ils arrivaient pas en EasyJet, hein, ils venaient des extrémités du pays. Enfin, ils prenaient le temps de venir. Ça prenait une semaine pour ceux qui étaient à Beersheba ou qui étaient à Dan dans le nord. Eh bien, ça prenait du temps. Et dit aïe, y a un problème. On va pas pouvoir être prêt pour la date. Mais on veut célébrer la Pâque. Et si on ne célébrait pas maintenant, ce sera dans un an. On ne veut pas attendre si longtemps. Ils ne se sont pas réunis pour dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qui a une bonne idée de ce qu'on pourrait faire? Non, non. Eh bien, ils ont consulté le texte. Ils ont consulté les textes. Et ils ont trouvé qu'en nombre, eh bien, Dieu avait déjà prévu que l'on pouvait, si on était en voyage ou si on n'était pas prêt, si on n'était pas en état, eh bien, on pouvait attendre le deuxième mois et le 14e jour. Donc, retarder d'un mois. Je suis en train de regarder là pour voir... Voilà, je vous lis le passage. C'est Nombre, chapitre 9, versets 9 à 11. Il dit, « Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec les pains sans levain et les herbes amères. » Donc c'était prévu. Dieu a dit, mais si jamais on n'est pas prêt pour ce jour-là, eh bien vous le faites un mois plus tard. Et donc, vous savez, c'est toujours bien, avant de prendre une décision, de voir ce que dit la Bible. On peut s'éviter beaucoup d'ennuis et beaucoup de difficultés. Et puis, en général, si on laisse aux hommes d'avoir les idées, ben, ils ont toutes sortes d'idées. Et pas toujours les meilleurs. Mais là, eh bien, ils ont dit, on le fait. Donc, dans un mois. Et le mois, ça permettra le temps d'aller avertir tout le monde, de mettre tout le monde au courant et de leur donner le temps de faire le voyage. Et donc, ainsi, ils pourront célébrer la Pâque comme il a été écrit. Vous regardez verset 4. « La chose ayant eu l'approbation du roi, de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, c'est-à-dire les deux royaumes, depuis Beersheba, c'est-à-dire tout à fait au sud, jusqu'à Dan, donc tout à fait au nord, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Comment interpréter ça? Ou elle n'était pas célébrée du tout, ou bien elle était célébrée pas comme il était écrit. C'est un peu, ça me fait penser un peu à Noël ou Pâques, hein, de nos jours. Hein, c'est célébré, mais pas comme il est écrit. Hein, on célèbre tout sauf la résurrection de Christ. On célèbre tout sauf la naissance de Jésus. Alors, soit il célébrait, il faisait la fête, mais ça n'avait rien à faire avec l'origine de la fête, ou bien il ne le célébrait plus du tout, j'en sais rien. En général, on n'annule pas les fêtes. Hein. En France, aussi laïque qu'on est, on a toujours nos fêtes, on garde les fêtes. Hein. On ne lâche pas les fêtes. On aime bien garder les fêtes, même si on ne sait plus pourquoi. Que ce soit des fêtes militaires, ou que ce soit des fêtes chrétiennes, ou tout ça. En France, on garde tout et puis on n'y pense pas. Or, peut-être c'était Israël faisait la même chose, puisqu'on est de la même nature qu'eux. Mais en tous les cas, ce n'est pas important. Ce qui dit, mais ce qu'on veut, c'est célébrer la Pâque, mais comme l'Éternel l'a ordonné. Et c'est ça, c'est le désir d'Ézéchias. Et c'est là un vrai meneur, parce qu'il conduit un peuple vers ce qu'il doit faire et vers Dieu. Et alors, l'invitation part dans tous les sens, dans toutes les directions et vers tout le monde. Et alors, je lis avec vous, vous êtes donc au chapitre 30, et à partir du verset 6, il nous dit « Les coureurs allèrent avec des lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. » Et voilà le message. Je ne vais pas lire, mais ce qu'il leur est en train de dire, parce que le royaume du Nord, déjà, ils avaient subi une déportation par le royaume d'Assyrie. Et donc, parce qu'ils s'étaient égarés de Dieu, déjà, ils avaient souffert. Alors, ils sont en train de leur dire, écoutez, revenez à Dieu, revenez célébrer la Pâque avec nous, humiliez devant le Seigneur, implorez-le, qui sait s'il ne va pas permettre à que ces gens qui ont été déportés, qu'ils ne reviennent. Parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Et c'est le message qu'il leur donne. Mais vous voyez, au verset 10, il nous dit, les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, dans le pays d'Éphraïm, de Manassé, jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, heureusement, il y a toujours le cependant. Vous avez rappelé quand Paul a prêché à Athènes, et il est arrivé à un certain point, on lui dit « Oh, bon, on t'écoutera un autre jour, hein, ça suffit. » Mais il y avait quand même quelques personnes qui ont cru à Athènes. Un qui s'appelait Dionysius, hein, et avec sa famille. Et donc, mais il nous dit, mais au verset 11, « Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé, et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. » Mais quand même, vous savez, on peut se dire, on prêche, on est en France, et puis si on parle de Dieu, il se moque de nous. Il nous dit, mais écoutez, c'est ton truc, il est ancien, ma grand-mère y croyait, mais bon, ça y est. Hein. On peut nous dire tout, mais il ne faut pas abandonner, parce qu'il y en a toujours quelques-uns. Hein, cependant, c'est le cependant. Et encore de nos jours, il y a le cependant. Il y a quand même encore quelques-uns qui s'humilient devant le Seigneur et qui viennent à la maison de l'Éternel pour l'adorer. Et alors, le verset 12, il nous dit, « Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs, selon la parole de l'Éternel. » Il a dit, même Juda, qui était peut-être le meilleur des deux royaumes, mais il a dit, mais c'est quand même l'Éternel qui a travaillé dans les cœurs. Vous savez, on peut... Je sais que nous, on est la meilleure église dans la région, hein, il n'y a pas de problème, ça ne se discute pas. Mais même nous, même si on est la meilleure, on a besoin que le Seigneur travaille dans nos cœurs, sinon rien ne se fera. Et verset 13, le résultat, un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois, et ce fut une immense assemblée. Quand même, le roi précédent, il avait fermé les portes, il avait l'idolâtrie de partout, et là, il y a un retour. Mais il y avait une préparation. Vous savez, ce verset ne pourrait pas exister sans les versets précédents, hein, depuis le début 29. Si Ézéchias ne s'était pas pris comme il s'est pris, ce verset n'aurait pas pu être. Je sais, souvent, nous cherchons les raccourcis. On dit, oh Seigneur, donne-nous un réveil. Et on veut directement, demain, ou ce soir, le verset 13. Il dit, non, non, il y a une préparation à faire dans les cœurs de chacun. Et on peut compter sur le Seigneur. Lorsque le travail se fait dans le cœur de chacun, il y a cette unanimité, il y a cette union, cette charité chrétienne qui envahit l'Église, eh bien, le réveil viendra tout seul. Vous n'aurez même pas à le demander. Mais regardez, je n'ai pas lu tout le verset 13. Parce que le verset 15... Il parle de immoler immoler la Pâque. Hein, ils immolèrent ensuite la Pâque. Mais il y a un verset 14. Le verset 14 est important. Regardez ce qu'il dit. Tous ces gens sont arrivés à Jérusalem. Tous ont envie d'adorer le Seigneur. Tous vont célébrer la Pâque. Dieu a travaillé dans les cœurs. On dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais verset 14. Ils se levèrent. La première chose qu'ils ont fait, ils se levèrent et firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem, et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et les jetèrent dans le torrent du Cédron. Le Cédron, c'était la décharge publique. C'était une vallée en dehors de Jérusalem, mais c'était là où... Finalement, c'est là où on brûlait les ordures constamment, et comme ça brûlait tout le temps, et ils ont appelé ça la Géhenne, hein, où c'est là l'image de l'enfer, un endroit qui brûle constamment. Ils ont dit oui, la maison de l'Éternel. Oui, mais il faut purifier nos vies, de pas, hein, c'est pas, il n'y a pas que dimanche qu'il faut purifier, c'est toute la semaine qu'il faut purifier. Et là, on purifie les villes, les rues de la ville. On purifie, on enlève tout ce qui ne correspond pas. Vous savez. S'il y a des choses encore dans notre vie, on veut adorer le Seigneur, mais il y a encore des choses qui existent, eh bien, dans les ruelles de notre vie, eh bien, il dit, on les règle. Et le verset 14, ils ont dit avant, c'est donc le verset 15 commence, ils immolèrent ensuite, après avoir fait le ménage dans les rues de Jérusalem. C'est dehors, mais ce n'est pas la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, ça y est. Non, non, il dit les rues aussi. Pas seulement dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et jusqu'à minuit samedi. Ils immolèrent ensuite la Pâque. Et là commence l'adoration. Bon, c'était encore... Tout n'était pas en place. Et je saute les détails. J'arrive au verset 18, il nous dit, mais il y a car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issacar, de Zabulon, qui ne s'étaient pas purifiés, ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Aïe, aïe, aïe. Ces gens, ils sont venus de l'extérieur, ils sont venus, il nous dit qu'ils s'humilièrent, ils sont venus vers Jérusalem. Mais ils sont venus dans l'État, et puis ils sont rentrés dans l'État, et puis ils ont participé dans l'État. Il dit, ah, normalement, on doit régler les choses comme ça. Mais vous savez, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Il m'a dit, au milieu du verset 18, là, il dit, « Mais Ézéchias pria pour eux en disant, « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. Il dit, ils n'ont peut-être pas pratiqué la sanctification parce que par ignorance, c'était pas dans leur coutume, hein, c'était ceux du Nord, et ça faisait longtemps qu'on n'était plus venus, ils ne savaient pas comment faire, leurs parents ne leur avaient pas montré comment se préparer. Ils sont venus comme ça, innocemment, pas innocemment parce qu'ils ont dit, ils ont appliqué leur cœur à chercher Dieu. Et il dit, quand, peu importe dans quel état tu es, mais si tu appliques ton cœur à chercher l'Éternel, tu es bienvenu. Même si tout n'est pas tout à fait conforme. Je me rappelle d'avoir lu une fois l'histoire d'un gars, ça remonte à quelques années. Maintenant, ça choquerait moins, mais ça doit monter à au moins 15-20 ans que j'ai lu cette histoire, mais c'était un gars en Belgique. Mais il était tatoué de la tête aux pieds. Et il était chauve. Et il s'amène à l'église. Bah, ça avait eu les yeux comme ça, hein. Ça ne correspondait pas au profil des gens d'église. Mais il s'est appliqué à chercher l'Éternel de tout son cœur. Il était bienvenu. Il y en a où c'est visible, ceux qu'ils ont vécu par le passé, il y en a que c'est moins visible. C'est tous visible devant Dieu, mais Dieu dit, si tu appliques ton cœur à chercher l'Éternel, tu es bienvenu. Et même s'il y a des choses qui ont été oubliées, mais c'est pas tout à fait conforme, bien. J'ai lu, il n'y a pas si longtemps, j'ai lu l'histoire deux lesbiennes qui s'amènent ensemble et qui s'assoient dans l'église. Ensemble. Et c'est une église très conservatrice. Et le pasteur avait averti l'église, a dit, on a un contact, il y a une personne qui cherche l'Éternel, on va bien les recevoir. Eh bien, les gens de l'église, ils ne sont pas pour s'écarter, mais ils ont bien reçu. C'est ça le message. Si quelqu'un, peu importe dans quel état il est, s'il cherche l'Éternel, eh bien nous le recevons à bras ouverts et nous prions pour eux, dit Seigneur, pardonne. Des fois, le langage n'est pas tout à fait ça. Hein, ce n'est pas le patois de Canaan, comme on dit. Peut-être que ce n'est pas toujours les bonnes réactions. Ce n'est pas grave. Il cherche l'Éternel. Reçois-le. Et nous devons avoir cette culture chrétienne, vraiment chrétienne, de pouvoir recevoir n'importe qui, peu importe dans quel état il est, d'où il vient, s'il cherche l'Éternel, il est bienvenu. Hein? Et là, regardez, verset 20, hein, c'est là la réponse, hein, Ézéchias il a demandé, mais bon, est-ce que ça a marché? Oui, verset 20, l'Éternel exauça Ézéchias et pardonna au peuple. Voilà, c'est beau, hein? Ça nous rassure. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui nous disent, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu méchant, violent, dur. Eh bien, moi, je ne le vois pas là. Hein. C'est le même Dieu. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est le même Dieu. C'est un Dieu qui est juste pour ce qui concerne le péché, mais qui est plein de grâce pour le pécheur et qui le reçoit. Alors, verset 21, les enfants d'Israël qui se trouvaient à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie. Et puis, je lis le verset 22, Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce, louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Et tellement c'était agréable, le verset 23, il nous dit, toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 jours, 7 autres jours. Et on prolonge, on double la longueur de la fête, encore 7 jours. Tellement c'est agréable. Et verset 26, il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances. Et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Ça, aussi. S'il n'y avait pas eu le chapitre 29, on ne pourrait pas avoir cette fin au chapitre 30. Et alors, et la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est le verset 27. Il dit « Les sacrificateurs, les lévites, se levèrent et bénirent le peuple. Et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. » De prier et de savoir que votre prière est arrivée jusqu'à dans la présence de Dieu, alors là, qui peut demander mieux ? Eh oui, mais il y avait. C'est pour ça que cette série d'études est la recette pour la restauration totale à l'adoration de Dieu. Il y a des choses à respecter. Il y a une préparation. C'est pas parce que tout d'un coup on décide et puis on met des instruments et on met un groupe de louanges et puis tout d'un coup c'est parti. Les raccourcis n'existent pas chez Dieu. Mais ils ont fait les choses comme Dieu a voulu. C'était tellement agréable qu'ils ont dit on en veut encore. Et puis en plus leur louange et leur prière d'arriver jusqu'à dans la présence de Dieu. Si nous aimerions avoir la même chose et vivre la même chose, c'est par le même moyen. L'avantage que nous avons par rapport à eux, c'est qu'eux, ils avaient, si je n'ai pas lu et compté tous les sacrifices et tous les animaux qui sont morts pendant ces 14 jours. Pour nous, Jésus-Christ est mort et ça suffit. Sans ça a coulé. Un seul sacrifice et un seul prêtre qui peut s'occuper de nous tous. Il est vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que sur terre, je peux m'occuper de quelques-uns. Mais quand je vais à la présence du Père, je m'assois à la droite du Père, je peux m'occuper de vous tous. Mais venez à moi, tel que vous êtes. Et ce matin, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Dans le pire des cas, vous découvrez le Seigneur pour la première fois de cette manière-là. Dans le meilleur des cas, vous êtes en communion avec le Seigneur et vous dites, ah, qu'est-ce que c'est beau. Et pensons à ce jour, comme le frère nous a exhorté, pensons à ce jour où ça a tout commencé. Et puis, comment ça veut terminer? Je ne sais pas ce que vous avez pu avoir comme pensée pendant ce temps, mais on va avoir un moment de silence et que chacun puisse dire à Dieu ce qu'il pense de ce que Dieu lui a dit pendant cette prédication. Puis ensuite, je terminerai par la prière.